Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spécial relations humaines. Les relations sont source de passion et de conflits. Dans un espace aussi rapproché qu'une ville ou une collectivité, inévitablement, il existe des frictions. Alors, comment gérer nos interactions? Au sommaire, l'effet Rosetto, l'art de la tolérance, la fête des voisins et la vieillesse réinventée. Hope te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Relations. On m'a appris à parler, mais pas à écouter. Cette lacune m'a suivi toute ma vie.
Tu es trop rigide.
Ben oui, tel le bambou qui poit sous le vent sans jamais une casse.
Tu n'es pas assez si.
Oui, mais, que je me rétorque sans cesse dans ma tête.
Tu es trop ça.
Je me suis rendu compte avec le temps que c'était tout le temps les mêmes lacunes que mon entourage me reprochait. La faute des autres que je me disais. À force de m'empêtrer dans les mailles du tissu social, j'ai vite entrevu où se situait mon seuil d'incompétence. À vrai dire, les relations humaines n'ont jamais été trop mon fort. Jusqu'au jour où je m'y suis intéressé. Après quelques lectures par-ci, par-là, j'ai finalement appris que le tu, tue. Pour de vrai. Avoir sa petite auto, sa petite sironde, son petit fer à repasser, je pensais jamais avoir besoin d'être en relation avec qui que ce soit. On finit par se méfier de l'autre, sans même le connaître. On tente de garder un visage neutre lorsqu'on se croise dans la rue.
C'est facile.
Même si on nous a appris qu'on avait besoin de personne dans la vie, avec tous nos esclaves techniques autour de nous, il en reste pas moins que s'isoler ne règle aucun problème. On se rend vite compte que les problèmes des uns sont finalement les problèmes des autres, et que tout est interconnecté. C'est drôle quand on y pense. Les quatre principes de la communication non violente,
Aube épisode 3,
supposément si facile à apprendre. J'imagine que vous les connaissez par cœur. Tellement facile à dire. Je pourrais en rajouter avec les principes de base de la psychologie relationnelle de Jacques Salomé, tiens, ou les quatre accords Toltec tant qu'à faire. Mais je vais vous laisser écouter l'épisode 3. J'ai eu beau lire tous ces livres-là, tant que je pouvais bâtir mes petits projets, tout seul dans mon coin d'appartement, tout allait bien. Mais en bon mégalomane que je suis, j'avais des projets collectifs inscrits dans mon ADN. I'm a leader, you know. Tout seul, tu vas vite. Ensemble, on va loin, qui disait. Le chemin le plus difficile, c'est pas de savoir faire des beaux jardins ou bâtir des constructions écologiques ou des communautés viables. Le chemin le moins fréquenté, c'est celui de se remettre en question au contact de son prochain. Et dans ce dossier-là, rien n'égale la pratique. Entre
ce que je pense, ce que je veux dire,
ce que je crois dire, ce que je dis,
ce que vous avez envie d'entendre,
ce que vous croyez entendre,
ce que vous entendez,
ce que vous avez envie de comprendre,
ce que vous croyez comprendre,
ce que vous comprenez.
Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même.
Quel est l'impact des relations interpersonnelles sur la santé? Au début du siècle, plusieurs familles d'immigrants italiens débarquèrent en Pennsylvanie de l'Est. Ils furent tout d'abord chassés des établissements déjà existants par les habitants d'origine pour finalement s'établir dans ce qui deviendra la petite ville de Rosetto, où ils créèrent leur propre culture et système de coopération. Dans les années 60, des chercheurs s'intéressèrent à Roseto, intrigués par le taux de mortalité cardiaque anormalement bas, en contraste avec celui des municipalités voisines. Ils tentèrent, par de nombreux examens, analyses et recherches, de démontrer un lien de causalité entre la santé exceptionnelle des habitants et leur génétique. Les conclusions furent claires, le phénomène dépassait l'hérédité et ne pouvait être analysé au microscope. Peut-être était-ce alors leur style de vie ou la nourriture méditerranéenne ? Eh bien non, les descendants italiens de Roseto avaient adapté leur cuisine à l'américaine, faisant frire leurs boulettes de viande, consommant en abondance des sucreries, du vin, des cigares, et travaillant pour la plupart dans des usines où les conditions de toxicité dépassaient probablement celles auxquelles était exposé le travailleur américain moyen. Autre fait intéressant, les chercheurs découvrirent que les taux de criminalité et d'application pour l'assistance publique y étaient nuls. Le secret de Roseto n'était donc pas dans la sauce tomate. Mais qu'avait donc cette bourgade d'à ce point unique ? La communauté ! Eh oui, toutes les maisons de Roseto abritaient un minimum de 3 générations familiales. Ces familles, tissées serrées, soutenantes tout en étant indépendantes, pouvaient compter les unes sur les autres en cas de crise. La structure sociale de la communauté au sens plus large était stable, prévisible et tout le monde y avait son rôle bien défini à jouer. Les personnes âgées n'étaient pas mises à l'écart, mais plutôt hautement considérées pour leur sagesse et leurs expériences de vie. Les rassemblements spirituels et les célébrations étaient fréquents et formaient la colle sociale de la collectivité. La forte mentalité catholique où il est mal vu d'étaler ses richesses faisait en sorte que les différences de classe n'étaient pas visibles à Roseto. Bref, ce qui rendait les gens de ce village exceptionnellement en santé, c'était la qualité de leurs interrelations. « People are nourished by other people », peut-on lire dans le rapport d'enquête. Depuis, l'expression « effet Roseto » est utilisée pour illustrer l'impact du tissu social sur la santé d'une communauté. Si vous faites un bilan au bout de chaque journée des événements ou des moments qui vous ont nourri et vous ont apporté une certaine satisfaction, vous constaterez qu'ils sont en grande partie liés à des relations. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Mais l'altérité est également la condition de ma reconnaissance et donc de mon existence. L'autre, avec un grand A, nourrit ma créativité, m'encourage, me confronte, me pousse dans mes retranchements et enfin m'enjoint à me remettre en question. Le sentiment de sécurité inhérent aux communautés tissées serrées, couplé à de saines habitudes de vie, a une incidence cruciale sur notre niveau de stress. Stress que l'on sait précurseur de la majorité de nos maladies contemporaines et qui est encore plus important dans les villes. Le site web satirique, Adopter un enfant riche, fait un pied de nez à la fois drôle et caustique à tous les sites misérabilistes qui enjoignent à envoyer de l'argent sur le continent africain. Cette fois, ce sont des familles du tiers-monde qui adoptent, entre guillemets, un enfant de pays occidental dont les liens affectifs et familiaux, communautaires et sociaux sont faibles ou inexistants. À défaut d'argent, les pays en voie de développement ont pas mal de choses à nous apprendre sur le soutien familial. Les communautés se reconstruisent cependant, et on observe un renouvellement dans la manière de construire du lien social. L'économie du partage et les modèles d'économie sociale, l'investissement dans des mouvements de citoyens ou communautaires, le bénévolat et l'habitat multigénérationnel réinventent des codes et des manières de faire. Bien sûr, nous n'en sommes qu'au début. On s'intéresse encore trop peu au lien social comme facteur d'amélioration de la santé. Mais ces débuts sont prometteurs, et la mondialisation a ceci de bon que l'on parlera peut-être un jour de village global, non pas pour la proximité de tout produit et de toute information, mais pour le soutien international des difficultés et la préoccupation commune du bien-être de tous.
Narration et adaptation d'Aurélie Subercicot.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du tronc, on a quitté du tronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur, comme toujours. Chauffez les gars. Et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Picard.
Aujourd'hui, on va parler donc dans la thématique de la santé d'un projet qui est très intéressant étant donné qu'il prend une autre optique de la position du patient. Je vais parler du projet Patient Partenaire et aujourd'hui, il y a Alexandre Berquez qui est avec nous pour nous parler de ce projet. Alexandre est conseiller à la direction collaboration et partenariat patient de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Petite remise en contexte, c'est une direction qui est co-dirigée par un médecin et un patient. Bonjour Alexandre, donc de quoi il retourne dans ce projet Patient Partenaire ?
Donc le projet patient partenaire, il est né d'un constat partagé entre les patients, leurs proches et les professionnels de santé du fait de l'inadéquation entre les besoins populationnels en matière de santé et la façon, le modèle de soins, les relations de soins qui existent dans le système de santé. Donc le but c'était de dire, il y a eu une évolution du portrait général des besoins populationnels en matière de santé, il y a une chronicisation des maladies, on est moins dans les maladies aiguës. Est-ce qu'aujourd'hui le milieu de la santé à former les professionnels de la santé et un système qui est conçu de manière à gérer ces nouveaux besoins en matière de santé au point de vue des patients. Donc le constat, c'était qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc l'objectif, c'était de dire comment on va transformer la formation des médecins et des professionnels de la santé en général de demain pour qu'ils soient capables de gérer cette évolution des besoins populationnels en matière de santé et à l'inverse, comment on forme les patients pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'interagir avec le milieu de la santé pour prendre soin d'eux à long terme.
Et au-delà de ça, de ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que le patient devient un allié du personnel soignant parce qu'il est le premier finalement concerné à soigner sa maladie et finalement il peut apporter des données au médecin ou à l'infirmière que lui, en étant professionnel, n'aura pas forcément parce qu'il n'est pas concerné par la maladie. Est-ce que j'ai bien compris l'idée ?
Ouais, t'as tout à fait compris l'idée. Il y a deux postulats de base. Le premier, c'est de dire que le patient n'est pas juste un bénéficiaire, un client du système de santé, mais c'est avant tout un acteur. Mmh. Donc c'est un acteur de soins. Un acteur même de premier plan, c'est peut-être certainement la personne qui passe le plus de temps par année à prendre soin de lui. Et là-dedans, il y a aussi les proches. C'est-à-dire qu'il y a des proches qui vont vivre avec des patients qui ont ces maladies chroniques-là et qui donc vont faire également l'expérience à la fois du système de santé, mais aussi de la vie avec la maladie. Donc le premier postulat, c'est de dire le patient n'est pas un client, mais aussi un acteur de soins à part entière, donc il fait partie de l'équipe. Le deuxième, c'est de dire les patients, ils ont ce qu'on appelle nous le savoir expérientiel de la vie avec la maladie. Une bonne décision médicale, elle ne peut être de qualité que si on mobilise à la fois tout le savoir scientifique biomédical qui est transmis aux professionnels de la santé, mais aussi en mobilisant les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie. Parce que t'as beau avoir le traitement le plus efficace, si tu prends pas en compte que la personne elle travaille la nuit ou qu'elle aime pas les pilules carrées parce qu'elle arrive pas à les avaler, etc., que tu prends pas ce genre de détails en compte, et ben on diminue la possibilité d'une observance au traitement.
Donc ce qui fait que donc d'un suivi par le patient de son traitement.
Bah nous on dit ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir le traitement le plus efficient scientifiquement parlant, biomédicalement parlant et du point de vue technique, mais aussi un traitement qui prend en compte les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie du patient et son contexte de vie et surtout son projet de vie.
Effectivement, c'est une autre manière d'envisager la maladie, et puis on n'est pas juste une personne qui donne un conseil et l'autre qui le suit. Finalement, c'est plutôt un partenariat,
c'est une,
vraiment.
C'est une co-décision. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on forme les équipes dans le milieu de la santé à inviter les patients lors des rencontres et de prendre une décision ensemble. C'est pas l'équipe qui consulte le patient en disant c'est correct de faire comme ça. C'est de dire on prend ensemble la décision, donc on fait une co-décision du plan de traitement.
De ce que j'ai pu voir aussi au niveau de ce projet-là, c'est que c'est pas juste à Montréal. Comment ça s'implante, en fait, ces projets-là ?
Effectivement, il y a des enjeux culturels, politiques, stratégiques, etc. dans chacun des pays. Aujourd'hui, ce qu'on fait au Québec, c'est qu'on s'est déployé à l'intérieur du réseau de la santé au Québec, donc dans les établissements de santé. Aux États-Unis, on fait beaucoup des conférences, on est beaucoup consultés parce qu'ils ont peu d'initiatives de partenariat avec le patient. Eux, ils ont beaucoup ce qu'on appelle des approches de consultation avec le patient. C'est-à-dire qu'on va faire un sondage, on va faire des focus groupes, on va les consulter dans un grand forum citoyen. Mais on reste encore dans le mode consultation, c'est-à-dire que la richesse de l'information collectée est toujours traitée à la fin par les professionnels de la santé ou par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on perd la richesse expérientielle qui a été extraite parce qu'on la traite dans un référentiel qui est biomédical, alors qu'on a été le chercher dans un référentiel expérientiel. Donc on perd cette richesse-là. Ce qu'on peut voir en Europe, ça se passe davantage dans l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des programmes d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on aide les patients, on développe leurs compétences à prendre soin d'eux. Donc ça peut être pour quelqu'un qui a un diabète de type 1, ça doit être améliorer sa capacité à se faire des injections d'insuline. Donc on est directement dans les soins. Nous, ce qu'on a pris comme postulat au Québec et au Canada, c'est de d'abord travailler l'environnement de soins qui va permettre, c'est-à-dire former les professionnels, changer la manière dont sont donnés les soins, etc., pour permettre aux patients de devenir un patient partenaire de ses propres soins. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est oui, il faut travailler au niveau des soins, ce qu'on fait avec des programmes d'éducation thérapeutique, mais parallèlement, il faut travailler à changer le milieu, changer les mentalités. Il y a 70% d'inobservance au traitement au Québec, environ.
Donc c'est-à-dire des personnes qui ne suivent pas leur traitement.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a beau faire le meilleur diagnostic, faire un IRM qui coûte extrêmement cher, avoir investi énormément de ressources humaines et techniques pour prendre la bonne décision, dans 7 cas sur 10, le traitement qui va sortir de cette bonne décision médicale ne sera pas pris. Si on ne travaille pas la dimension expérientielle et relationnelle avec le patient dans la relation de soins, ben en fait, tous ces efforts-là, ils ont très peu d'impact dans la suite.
Donc, c'est vraiment intéressant, finalement, parce que tu as une équipe multidisciplinaire. On sort un peu de cette hiérarchie. On arrive à prendre le patient en compte comme étant un acteur lui-même de sa propre guérison plutôt qu'un assisté, finalement, pauvre victime. C'est un projet très, très intéressant. C'est quoi l'impact actuellement ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment une réalisation pratique et concrète ou...
C'est parti depuis à peu près fin 2010, mais aujourd'hui, déjà 4 ans après, on a plus de 400 patients qui ont été recrutés, formés, qui ont été impliqués à la fois dans l'enseignement des futurs professionnels de la santé, à la fois dans les soins et services de santé, c'est-à-dire dans le réseau de la santé au Québec, au sein des C3S, des CHSLD, etc., et dans la recherche en santé. Je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, les cours d'éthique clinique à la faculté de médecine, donc avec les futurs médecins, sont donnés en duo d'enseignement avec un médecin et un patient. Il faut intégrer à la fois des proches et des patients qui ont vécu ces expériences-là pour amener une dimension au-delà de biomédicale, mais davantage expérientielle dans ce genre de discussion.
Et même presque humaine, finalement, pour qu'on puisse donner à des étudiants en médecine, non pas juste une pratique de l'anatomie, mais aussi un côté humain, et puis à apprendre à écouter l'autre aussi.
Exactement. Mais aussi, juste quand on parle d'écouter, c'est pas nécessairement des patients qui viennent témoigner. Le but, c'est pas de faire pleurer les étudiants en médecine en montrant « là, c'est triste de vivre avec la maladie », mais c'est le cours est carrément co-construit avec les patients. Si on donne un cours sur la douleur chronique, on va prendre quelqu'un qui a une fibromyalgie, qui a donc une sensation de douleur assez fréquente dans la journée, entre 20 et plus de 20 heures par jour pour certains cas, et qui va co-construire le cours et le donner aux étudiants en ayant en tête cette dimension de l'impact sur la vie, l'impact sur le projet de vie, etc. Juste pour terminer, je voulais dire qu'une des choses qui est le plus marquante dans ce projet, c'est que de manière générale, les patients nous confient souvent qu'au moment où on leur a donné le diagnostic de la vie avec la maladie, et que depuis ils se sont sentis pris en charge par le système de la santé, ils ont l'impression d'avoir perdu une certaine utilité sociale. Et en fait, quand ils viennent faire les projets avec nous, souvent ce qu'ils nous disent, c'est « Merci, enfin je retrouve une utilité sociale, j'ai l'impression de redonner à la communauté tout ce qu'elle m'a donné comme aide, comme manière de prendre soin de moi, et c'est une manière de redonner, et surtout de redonner à ces professionnels, parce que j'en ai rencontré des fantastiques et aujourd'hui j'aimerais contribuer à former des professionnels de santé qui vont être capables d'être des partenaires de soins.
Super, bah écoute Alexandre, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de ce fameux projet Patient Partenaire. Puis j'encourage vraiment les gens à aller jeter un œil parce qu'on n'en entend pas forcément parler, mais c'est très très intéressant. Sommes-nous aussi ouverts d'esprit que nous aimerions le croire? Quand on choisit de vivre en vase clos, que ce soit dans une communauté, dans un éco-village ou dans un coin de pays reculé, il faut garder à l'esprit ce qu'occasionne cette isolation. On se regroupe parce qu'on se ressemble, mais on peut aussi vite se couper du reste du monde parce qu'il ne partage pas nos valeurs. Sans parfois s'en apercevoir, on porte des jugements sur les façons de faire de la culture de masse. On estime qu'il s'agit d'un manque d'éducation ou d'amour de soi. Les causes pour lesquelles on milite et qui nous tiennent à cœur ont une importance grandiose à nos yeux, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne résonnent pas nécessairement de cette façon pour tous. Nos gestes ou notre non-verbal traduisent parfois de l'intolérance envers ceux qui ne partagent pas nos convictions. Que ce soit nos parents qui ne veulent pas manger bio parce que ça coûte trop cher même s'ils gagnent 3 fois notre salaire, ou qu'ils ne veulent rien savoir de composter parce que ça pue ou que c'est trop compliqué. Notre souci d'inclusion peut se traduire par un désir d'assimilation et d'uniformisation, parfois dérangeant aux yeux de ceux qui nous entourent. On n'est pas plus évolué parce qu'on vit dans le bois sans eau ni électricité, pas plus qu'on a une longueur d'avance parce qu'on met des couches de coton à notre bébé et qu'on a choisi de vivre sans la télé. On a juste fait des choix sensés pour nous. L'autre jour, en me promenant dans la forêt près de chez moi, je suis tombée sur une mine de déchets abandonnée par quelqu'un qui avait décidé de reculer avec sa camionnette sans se soucier de briser une bonne dizaine d'arbres et qui avait vidé le contenu de la boîte du véhicule. La boucane me sortait par les oreilles tandis que je tentais de nettoyer l'endroit. Puis, je me suis arrêtée pour réfléchir un peu. J'ai longtemps cru que la réponse à bien des maux résidait dans l'éducation. Mais je sais aussi que le passé laisse souvent des traces indélébiles que toute l'éducation du monde ne saurait effacer. Ceux qui avaient commis cet acte irresponsable à mes yeux avaient sans doute leur histoire que je ne connaissais pas, et j'ai éprouvé tout à coup une certaine compassion pour eux. Il y a eu un moment charnière dans ma vie, où j'ai effectué une prise de conscience sur la tolérance et la compassion. Après la naissance très traumatique de mes jumelles, j'ai dû renoncer, le cœur brisé, à l'allaitement après avoir vu mon accouchement naturel se transformer en désastre médical. Un jour où je donnais le biberon à ma petite Mara dans un petit café avoisinant, j'ai été fusillée du regard par une voisine de table. Si seulement cette femme avait pu lire au fond de mon regard mon terrible chagrin et ce deuil de donner le sein à mon bébé, et malgré tout, tout l'amour qui émanait de moi en lui offrant cette bouteille. Peut-être que son air de mépris et de condescendance aurait fait place à un peu de compassion. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque choix, chaque geste, il y a une âme avec une histoire. De la tolérance naît l'acceptation de la vraie nature de l'autre. Quand on tente tant bien que mal de convertir les nôtres aux graines germées ou à la simplicité volontaire, qu'on coupe les ponts avec une copine magasineuse compulsive, qu'on roule les yeux au ciel devant le refus d'un parent à troquer ses Tylenol contre des huiles essentielles, au fond, c'est peut-être nous qui manquons de tolérance et d'ouverture d'esprit. Chacun a son bagage, et celui-ci laisse une empreinte profonde dans l'âme du monde.
Un texte de Catherine Forêt, paru dans Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Solène Marchand.
Salut le grand! Ok! Tu fais ici?
Pas grand chose. Et tu as après coupé ta haie? Pas vraiment, non. Taille un peu, tu sais. Comment ça va l'air pouilleux? M'arrange qu'elle ait l'air du monde cet été, tu sais.
C'est de l'ouvrage pareil, hein?
Tu fous, toi? Ça me détend. L'herbe, ça me relaxe.
Ouais. Ça fait ça.
Ah, ben, tu sais, c'est une haie, hein? Mais, on sert de plus en plus comme clôture.
Je te comprends. Hé!
Ah!
Parle-moi de ça. La petite famille va bien?
Je te remercie. Toi-même?
Définitivement. Et monsieur.
Ah! Ça me fait maigrir, toi.
Es-tu fou, j'ai engraissé 3 livres?
Ça me plaît aussi.
Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu.
Mais ça, c'est que t'as fait de bon.
C'est allé chez Canadian Tire.
Moi, sérieux?
T'as dit?
Eh ben.
T'aurais dû voir ça, toi. Ils t'ont reçu un de ces clous à ciment, mon âme. T'as pas peur.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Ciment, c'est une science comme un autre, hein? Force de chercher, ils vont bien finir par trouver. Et soda. Hey, as-tu vu ça, toi? Hein? Ça vaut la peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer pendant 15 ans dans ta tête, tu te reviens de bord 2 minutes, puis un maudit marijuana qui vient faire son voyage dedans. Il ferait ça dans son salon, tu penses, hein?
Me semble, ouais.
Hein? Ce monde-là, ça mériterait d'être pendu par les intestins.
T'es trop bon, Bernard, m'a t'a dit, moi, t'es trop bon.
C'est plus moyen de couper ça, sans avoir du fun. Je me demande bien ce qu'il y a de plaisir dans la vie, moi.
C'est pas moi qui vais t'ostiner.
Mais si tu veux, je te dis, j'aime ça, couper ma haie.
Pas besoin de bien dire, mon vieux.
Ben, c'est ça, je te dis.
OK. À propos, c'est pas ça.
Socialisation forcée par les liens du voisinage dépourvus d'empathie ou de sincérité. La pièce Les Voisins, écrite pour la scène en 1980 par Claude Meunier et Louis Sayat et tournée par la réalisatrice Micheline Gertin pour Télé-Québec, relate l'histoire de 3 couples se donnant rendez-vous chez l'un d'eux pour une soirée de projection de diapositives. Mais personne ne prend réellement plaisir à cette soirée, où triomphe la banalité des échanges. Une crise cardiaque vient troubler l'ennui de la rencontre. Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu l'effet Rosetto, l'art de la tolérance, la fête des voisins, sans oublier la musique de Jacques Brel avec Vesoul. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com.
À Montréal, il suffit souvent d'un détour pour tomber sur quelqu'un d'extraordinaire.
Salut, enchanté, moi c'est Guillaume.
Salut, moi c'est Marie.
Salut Marie. Marie, on se croise comme ça dans ta ruelle, il y a de l'activité autour de nous. Est-ce que c'est toujours comme ça chez vous?
Pas mal souvent, surtout l'été évidemment, mais c'est sûr que déjà dans la ruelle, il y a beaucoup d'enfants. Fait que ça fait vraiment une vie de quartier intéressante. Puis ça recrée des liens, ça refait sortir les enfants dehors. Puis c'est vrai que ça fait de l'action, puis qu'il y a toujours beaucoup de monde à la maison, puis autour, puis ça se déplace. Puis...
Présentement, c'est un peu ça qui se passe dans ta cour, là. On prend le temps de jaser un peu, mais il y a des gens qui sont en train de travailler sur leur propre boîte à savon.
Oui, c'est exactement ça. Je sais pas trop comment va finir cette histoire-là, mais écoute, ils se lancent et puis...
Mais qu'est-ce qu'ils font exactement?
Ah ben ils ont pris une vieille voiture en plastique. Mon père était ébéniste, donc il y a des outils, il y a du bois, tout ça. Puis là, ils ont décidé de faire une boîte à savon. Je sais pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Je sais pas où est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, tout aussi. Mais, tu sais, il y a 2 voisins à 2 maisons là. Il y a un petit garçon qui habite un peu plus loin. Il y a une maman qui les aide là. Tu sais, c'est très...
De plus en plus dans les ruelles de Montréal et dans toutes les autres villes du monde, on voit les gens se rassembler pour se créer des milieux de vie plus humains.
T'organises des choses aussi chez vous. La dernière fois qu'on s'est croisés, il y avait une soirée chez toi aussi. Donc, il y a un peu toujours quelque chose qui se passe dans la ruelle ou sur la terrasse. C'est important pour toi?
Oui, c'est vrai que pour nous, la ruelle, c'est devenu un milieu de vie. quelque part, un milieu de vie pour les enfants, un milieu de vie pour les adultes. Quand on organise la fête des voisins durant l'été, on enlève les clôtures, on fait une scène avec le balcon, puis on met nos chaises, notre barbecue dehors, puis tu sais, on occupe l'espace. Donc, je pense qu'il faut vraiment occuper l'espace urbain. Puis on invite tout le monde, justement, parce qu'il faut que les gens se parlent. On habite, on est dans une société quelque part aujourd'hui où les gens, ils sont un peu en silo.
La fête des voisins, également nommée immeuble en fête, est une fête à l'origine française qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l'isolement et de créer un sentiment d'appartenance au quartier.
Puis présentement, ça va bien, le voisinage, tout le monde. Et c'est sûr que des fois, il y a des conflits, non?
Oui, des fois, c'est sûr. L'autre jour, les enfants sont venus et disent « Oh, la dame, on a envoyé son ballon dans la cour, puis elle était vraiment pas contente, puis elle était vraiment fâchée. » Puis c'est vrai que des fois... on est sûr, c'est sûr qu'on est les gens, les musiciens de la ruelle, là, tu sais, puis on jam, puis ça, puis juste, ça doit probablement déranger certains, là, mais ils se manifestent pas trop, ça va.
Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, il y a des gens aussi qui ça a un impact positif dans leur vie, de savoir que ça existe?
Je pense que oui. Il y a clairement des gens, le voisin d'en haut a déménagé il y a 2 mois, puis il dit que ça a changé sa vie, là. Tu sais, il dit, j'étais dans un quartier où on parlait pas à personne, ça, là, je rentre le soir, t'sais, on descend, on prend un petit verre sur le balcon, on décompresse la journée, on jase avec les autres. Fait que c'est sûr qu'il y en a que ça dérange. Il y en a... Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a que le bonheur, ça dérange.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Puis toi, ta solution pour ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Ben écoute, il faut laisser aller.
Tu penses qu'on peut les contaminer aussi, ces gens-là?
Ah, il faut toujours essayer. Okay. Faut toujours les inviter quand même. Faut toujours continuer à les inviter.
Excellent. Pour toi, comme jeune adulte, ça a quoi comme impact de pouvoir rencontrer tes voisins comme ça? T'es en plus des enfants, évidemment.
Bien, c'est le voisinage, mais c'est aussi l'entraide, quelque part. Tu sais, Madame Beaulieu, on l'a vu vieillir à côté, son mari est décédé. Mon fils, l'autre jour, il est allé l'aider à racler ses feuilles. Tu sais, elle était super contente parce qu'il donne un petit peu de sous. Puis, tu sais, je pense qu'il faut... on est tellement de monde, je pense que, tu sais, si on se parle pas puis qu'on regarde... On regarde par terre. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on a une Européenne qui est là aujourd'hui depuis 24 heures. Puis elle est drôle parce qu'elle dit les gens se parlent, les gens se regardent, les gens, tu sais. Je pense que déjà d'instinct, les Québécois, on a un peu ça. À Montréal, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il faut le garder, tu sais. Puis on a une espèce de petit village ici.
C'est quand même le fun. Est-ce que c'est toi la chef du petit village? Est-ce que tu penses que. Non, mais dans le sens que. Est-ce que tu penses que ça prend quelqu'un qui prend la responsabilité de le faire ou ça vient naturellement?
Je pense que oui. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus rassembleurs de nature. Là. C'est sûr que moi, on me l'a inculqué petite, mais c'est sûr que je suis pas... La preuve, c'est que ça se fait pas partout dans toutes les ruelles, puis ça se fait pas non plus dans toutes les dans tout le voisinage autour. Donc, tu sais, puis là, en avant de la maison, on a planté des légumes, puis c'est vraiment écrit « nourriture à partager ». Puis moi, je pense qu'il faut réinventer les liens aujourd'hui, en 2015.
C'est une belle phrase. C'est vrai qu'il y a plein de belles phrases comme ça.
Ah. À chaque année, le premier vendredi de juin, se tient la fête des voisins, un événement qui rassemble plus de 200 000 personnes dans plus de 3 800 fêtes partout à travers le Québec. Bref, c'est une très bonne occasion pour tisser des liens entre nous et transformer notre vie de quartier.
Mon voisin en haut, c'est un Rastaman. Il m'a invité chez eux, fait une épluchette de banane. Il y avait ses chums, sa femme, leur soeur puis le frère. Du bien beau monde à voir. J'ai bu du rhum, j'ai presque tombé d'un bonbon. Yo, 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 yo.
Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des.
Le point de départ de cette chronique, c'est ma propre peur de vieillir. Et parce que c'était anxiogène, j'ai donc décidé d'y aller franco et de creuser les alternatives possibles. Parce qu'un jour, aussi beau et jeune que l'on soit, eh bien, on va vieillir. C'est une lapalissade de le dire, cependant, c'est bon de le rappeler, nous serons nous aussi un jour des vieux. De plus, le rallongement de la vie ne s'accompagne pas forcément d'une meilleure qualité de vie. Quant aux structures institutionnelles et familiales, elles semblent peu à même de promettre l'épanouissement de ces anciens jeunes. Selon un sondage datant de juin 2011 de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, 63% des Québécois ne voient pas d'un œil positif le fait de vivre en résidence pour aînés. Quant aux récentes coupures au niveau du système de santé et de certains articles parus dans différents journaux sur les CHSLD, le pessimisme quant à nos vieux jours nous guette. Cependant, cette situation permet aussi un questionnement et même parfois une anticipation. Non pas dans le sens de préparer ses obsèques, comme dans certaines publicités dirigées spécifiquement pour les vieux, mais plutôt sur une autre manière de vivre sa vieillesse. Car oui, les vieux sont dynamiques, continuent d'apprendre, voyagent, consomment et s'entraident. Il existe des vieillesses, et là aussi, il est possible de l'envisager autrement qu'en CHSLD, avec une retraite réduite à peau de chagrin.
La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit. Un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme.
Youth de Samuel Ullman. Ma grand-mère, véritable clown qui ne l'a pourtant pas eu toujours facile dans sa vie, me disait l'autre fois, je cite, « La vieillesse, c'est pas rigolo ». Alors je lui ai envoyé un lien internet, et oui, les vieux tripent aussi sur internet, le lien du blog d'un New-Yorkais qui arpente les rues de sa ville et prend en photo toutes les femmes âgées entre 75 ans et 80 ans au look excentrique. Mais alors vraiment excentrique. Des couleurs, des plumes, des énormes bijoux, des lunettes bigarrées et une attitude de fausse innocence qui leur fait oublier les limites imposées à leur âge. De ces super mamies, on en a tiré d'ailleurs un documentaire intitulé Fabulous Fashionistas, diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni. L'une d'elles déclare d'ailleurs dans le film « Oui, on pense à la mort, mais on choisit la vie ». Les mannequins âgés apparaissent timidement sur les podiums aujourd'hui, les chevelures grises s'affranchissent glorieusement des teintures et les tableaux Pinterest ne se lassent pas de retracer les visages lumineux de ces personnes qui vieillissent avec style. La vieillesse n'est pas synonyme de fin. La vieillesse s'étire et devient une autre étape de la vie, la sagesse en plus. Louis Berreur, directeur associé à la recherche clinique à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et chercheur à l'UQAM, indique qu'il est possible de lutter contre le ralentissement des facultés intellectuelles et même d'améliorer ses performances. Pour y parvenir, pas de pilule miracle. Le chercheur résume le secret d'une vieillesse en douceur grâce aux bienfaits de l'exercice sur la cognition de la manière suivante. Je cite
« Quatre approches ont prouvé leur efficacité. L'activité physique, la stimulation cognitive, les interactions sociales et, de façon moins certaine, une bonne alimentation. »
Fin de citation. Le médicament est en général la solution miracle aux multiples maux, alors que beaucoup de problèmes pourraient d'abord être réglés par l'alimentation, de l'effort physique et de la stimulation intellectuelle. D'ailleurs, l'Université du Troisième Âge existe à Montréal et accueille pour de nombreux programmes des personnes jeunes de cœur et d'esprit qui souhaitent rafraîchir ou enrichir leurs connaissances. Côté habitat, de plus en plus de baby-boomers et même de trentenaires se posent la question de leur vieillesse. Quel revenu mensuel? Quel habitat? Quel lien social on aura? Le maintien à domicile et l'accueil de papy à la maison permet le croisement des générations, de garder les enfants et une entraide multigénérationnelle. L'absence d'effet miroir évite de trop penser à sa propre dégradation. Le cas des maladies dégénératives est bien sûr un cas à part. Le maintien à domicile d'une personne atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson devenant souvent trop lourd, le recours au personnel qualifié dans des structures sécuritaires devient alors malheureusement une nécessité. C'est encore le lien social qui est au cœur de la réflexion sur les coopératives d'habitation spécifiques construites ou bien par des tiers ou par le futur vieux lui-même. Les coopératives d'habitation se développent, offrant une autre manière de vivre ensemble. Ainsi, la seigneurie à Boucherville est une coopérative d'usufruitiers. C'est-à-dire, les membres sont collectivement propriétaires des immeubles de la coopérative tout en étant individuellement locataires de leur logement. Dans cette nouvelle formule, donc, les membres résidents sont propriétaires de leur logement tout en respectant les principes et les modes de fonctionnement coopératifs. En France, à Paris, la Maison des Baba Yaga est aussi un modèle original de studio pour 25 personnes âgées. Entre la solitude à domicile à tout prix et le placement en catastrophe en maison de retraite pour cause de handicap ou d'accident médical, les trois initiatrices du projet de la maison des Baba Yaga ont estimé qu'il y avait de la place pour une alternative plus séduisante. La maison, en plus d'héberger donc des femmes du troisième âge, héberge également une université pour les vieux et organise des activités ouvertes à tous dans les lieux communs. Un autre modèle intéressant est celui de ces quatre couples d'amis qui ont construit aussi un mini village de tiny house juste pour eux, avec des petits logements de 35 mètres carrés et un espace central juste pour eux. Le projet s'appelle Yano Exit Strategy et se situe au Texas. Leur but, vieillir ensemble. L'alternative est encore et toujours une manière de construire ses propres règles. À l'heure où nos facultés décroissent, une autre manière de vivre s'ouvre à nous, une autre forme de créativité. La vieillesse, ce n'est pas la fin, non. Lorsqu'elle n'est pas encore survenue, on peut l'anticiper au travers de projets fédérateurs, et lorsqu'elle est là, elle est un nouveau mode de vie.
Pour vieillir sans déchoir, ne jamais oublier ce que j'aurais senti dans l'âge où le cœur vibre. Le beau, l'honneur, le droit, qui ne s'est pas plié. Et jusqu'au tombeau, penser en homme libre. Puissais-je ainsi m'asseoir au fait de mes jours et contempler la vie, exempte en fin d'épreuve, comme du haut des monts où voient les grands détours et les plis tourmentés des routes et des fleuves.
René-François Sully Prudhomme.
Texte et narration d'Aurélie Suberchicot.
Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells concealing to appear. We'll make my bed, she said, the time to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show.
À 15 ans, Grignotte, de son surnom, n'était pas tellement porté sur l'école. Ça ne voulait pas dire qu'il détestait apprendre, mais entre l'école et l'atelier de son grand-père, Grignotte n'avait aucune hésitation. Il aimait mieux apprendre avec son grand-père. Le grand-père de Grignotte n'était pas un prof, mais il aimait son métier d'ébéniste, comme un prof aime le sien. Il aimait voir ses petits-fils apprendre, comme un prof aime voir ses élèves apprendre. Il se sentait bien dans son atelier quand ses petits-fils venaient travailler avec lui. De plus, il aimait beaucoup chantonner en travaillant et il avait un faible pour Gilles Vigneault. Un beau jour, Grignotte fit irruption dans la boutique de son grand-père. Le vieil homme tournait alors une patte de table. Vous savez, c'est une vraie merveille de voir un ébéniste travailler sur un tour à bois. La pièce de bois brute et informe se met à tourner de plus en plus vite, et quand l'artisan sort le ciseau à bois, des milliers de petites éclisses entrent dans une folle danse. Grignotte était béat d'admiration. Quand le tour s'arrêta quelques minutes plus tard, la pièce de bois rude s'était métamorphosée en une jolie patte de table, bien polie, bien galbée, de toute beauté.
C'est bien beau, grand-papa, j'aimerais ça essayer. Est-ce que c'est possible?
Mais bien sûr, mon homme. Je vais te donner quelques conseils de sécurité, et puis après, tu pourras essayer.
Et voilà notre Grignotte au travail. Maladroit, le jeune garçon fit une fausse manœuvre dès le départ, si bien que la patte casse immédiatement. Imaginez la déception. Il avait encore échoué. Mais le grand-père, qui avait supervisé la manœuvre, avait détecté la maladresse. Quelques ajustements, quelques encouragements, une nouvelle pièce de bois, et revoilà notre ébéniste en herbe au travail. Quand le tour s'immobilisa, on était à des kilomètres de la patte de table de l'ancêtre, bien sûr, mais c'était beaucoup mieux que la première fois. Et c'est là-dessus que le grand-père insista pour que Grignotte retourne au tour. L'homme d'expérience sait, lui, que son jeune protégé était sur le point de réussir. Il lui donna donc une pièce de bois digne de l'événement. De nouveau, le tour s'activa dans un tourbillon d'éclisses qui papillonnèrent dans toutes les directions. Quand Grignotte poussa l'interrupteur, il lui sembla que la pièce de bois ne s'immobiliserait jamais. Les yeux de Grignotte étaient rivés sur le tour, ceux du grand-père étaient figés sur ceux de Grignotte. La patte était parfaite. Un chef-d'œuvre. Le grand-père était si fier qu'il entonna d'une voix forte sa chanson favorite. Il la transformait selon les circonstances.
Mon cher Grignotte, c'est à mon tour de dire bravo pour ton succès.
Mais Grignotte, lui, était bien triste.
Tu vois, grand-papa, j'ai encore échoué aujourd'hui. La première patte, ça a été un gros zéro. La deuxième, ça valait à peine 40%. Alors même si tu me donnes 100% pour celle-ci, ça me donnera que 47% de moyenne.
Mais voyons, Grignotte, Tu vois bien que maintenant, tu es capable de travailler sur un tour à bois.
Tu comprends pas, grand-papa. Tu n'es pas allé à l'école assez longtemps.
En regardant Grignotte, qui était tristement l'atelier, le vieil homme, la larme à l'œil, essaya de comprendre quel diable avait bien pu convaincre Grignotte de son échec.
Un texte de Michel Dufour, tiré de Allégorie, Croissance et Harmonie. Une adaptation de Solène Marchand.
Gros charroux très gras, poilu de partout, noble sans doute, mais arrogant, suffisant comme son maître d'en bas, me filant entre les jambes dans l'entrée. Grrr, brrr, l'hiver bistouri arrive, surtout pas glisser dans le spleen inhumain, ce fret polaire en but. Mais l'hydro veille sur nous, l'hydre de l'anticipation nous guette aussi. Cesser de fabuler dans le vide, de platifier sa vie. Qu'est-ce qu'on en sait sur ce que demain va amener? Du fun, du fric, des billes, des soucis, des visites inopinées. Jamais assez, toujours trop. Veille, surveille, envoie, avance, recule pas. Ça se passe drette devant, scellé dans un coffre inouvrable. Le passé sans cesse ressassé, cassette casée pour de bon, sauf pour livrer ses leçons aux rejetons. Pas reject, pantoute, pas roitelet non plus, ni lettre, surtout pas les miens. Tes moments sont à toi, pas tes mômes, comme l'a écrit le grand Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et filles de l'appel de la vie. Ils viennent à travers vous, non de vous. Bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas, etc. Qu'ils choisissent leur chemin, eux, consciemment. Liberté, respect, entraide, fête, credo de vieux baba trop cool. Agisme ou jeunisme, rien affiche. Tous sur une traque de sentiers irréguliers, à sentir venir le vent pollué du sud-ouest, piffant l'air, antenne ouverte, naviguant à vue solo, sans garantie aucune, sur l'esquif vacillant du body si fragile. Une vie normale, ça n'existe pas. À vous les kikis de diriger joliment la vôtre, pas vous laisser mener par le bout du nez de l'autre, mais s'inspirer sans se laisser aspirer, rester allumé, vigilant comme une chatte en chasse. Des fois, un doux répit provisoire, ronronnant collé, près du poêle ou au lit, minou comblé, rasséréné, bonne saison glacée, veut pas supervivre.
Un texte de Annie Schneider du nom de Fantaisie saisonnière. Capsule de Gargouille Laramée du nom de Chasse aux insectes, tirée de Instinct Animal. Tradition orale en audiorama, une exclusivité de Aube.
Charles Fourier était un fils de drapier né à Besançon en 1772. Dès la Révolution de 1789, il fait preuve d'étonnante ambition pour l'humanité. Il veut changer la société. Il expose ses projets en 1793 aux membres du directoire qui se moquent de lui. Dès lors, il décide de se ranger et devient caissier. Lorsqu'il a du temps libre, Charles Fourier poursuit néanmoins sa marotte de la recherche d'une société idéale, qu'il décrira dans les moindres détails dans plusieurs livres dont Le Nouveau Monde industriel et sociétaire. Selon cet utopiste, les hommes devraient vivre en petites communautés de 1600 à 1800 membres. La communauté, qu'il nomme phalange, remplace la famille. Sans famille, plus de rapports parentaux, plus de rapports d'autorité. Le gouvernement est restreint au plus strict minimum. Les décisions importantes se prennent en commun, au jour le jour, sur la place centrale. Chaque phalange est logé dans une maison-cité que Fourier appelle le Phalanster. Il décrit très précisément son Phalanster idéal, un château de 3 à 5 étages. Au premier niveau, des rues rafraîchies en été par des jets d'eau, chauffées en hiver par de grandes cheminées. Au centre se trouve une tour d'ordre où sont installés l'observatoire, le carillon, le télégraphe Chappe, le veilleur de nuit. Charles Fourier était persuadé que si l'on appliquait ses idées à la lettre partout dans le monde, les habitants des phalanstères connaîtraient une évolution naturelle, visible sur leur organisme. En France, en 1859, André Gaudin, l'inventeur des poêles à chauffage, crée une communauté inspirée des phalanstères de Fourier. 1200 personnes vivent ensemble et se partagent les profits. Mais le système ne se maintiendra que grâce à l'autorité paternaliste de la famille Gaudin. Des phalanstères approximatifs ou des communautés du même esprit furent créées par des disciples de Fourier partout dans le monde, notamment en Argentine, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. À sa mort, Fourier renia tous ses disciples.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Viens ici, mon petit gars. M'en va te tricoter une belle paire de pantoufles en laine de sourire.
Mère Grand, comment ça se fait que dans ton temps, tout le monde se disait bonjour? Ça devait être dur de sourire tout le monde dans la rue comme ça.
Ben non, mon petit. Ça se faisait naturellement, ces choses-là. On n'y pensait même pas.
Ouais, mais tu sais, genre, comme, sourire, là, tu sais, ça active bien trop de muscles dans notre facial, puis parfois, je sens toute ma face craquer. C'est pas super bon, ça, pour mon maquillage.
Et pourquoi pas te pratiquer pour voir? Tiens, regarde-toi dans le miroir ici, là. Bien. Maintenant, pense à quelque chose de beau, de tendre ou à un instant mémorable.
Ah, tu sais, genre, la fois où j'ai eu mon PlayStation.
Ouais, quelque chose du genre.
Châtez-moi pas, là.
Regarde tes yeux briller à cette heure.
Ah, wow, c'est ça que ça fait sourire.
C'est encore plus fort lorsque tu ouvres la porte à quelqu'un ou encore que tu aides à ramasser le joli mouchoir brodé d'une demoiselle.
Ah, comme dans Mary Poppins. Ça n'existe plus, ça, dans notre temps.
Bah, tu sais, les modes finissent toujours par revenir aux 20 ans. Attends de voir. L'année passée, c'était la barbe. Cette année, les mini-jupes.
Ah, en tout cas, ça serait hot dans notre temps. En tout cas, parce que, ben, c'est bien plus facile que de perdre mon temps sur le Tinder réseau machin.
Vas-y, pratique-toi. Un pas en avant. Sourire. On se pense pour ramasser le mouchoir. Sourire. Vous avez perdu quelque chose, mademoiselle?
Et claque d'en face en se faisant traiter d'harceleur masochiste, machiste violeur de basse-cour.
Ah, mon pauvre petit gars. Dans quelle drôle d'époque es-tu atterri?
Ok, je recommence. Sourire.
Tu vois que c'est maintenant pas mal plus naturel.
Ok, ben maintenant, raconte-moi donc comment vous voyez à cette heure.
Bon, viens ici que je te tricote un tricot en fibre de petit bonheur.
Ah, wow, j'aurais un beau pullover.
Hier, j'ai croisé une femme échevelée. En larmes. Ses miettes étaient ramassées près d'un parcomètre et attiraient l'attention plus que sa douleur. J'étais au téléphone. Je l'ai regardée en me sentant impuissante, puis j'ai passé ma route. Finalement, 11 pas plus tard, j'ai vibré. Il ne suffit que d'une personne. J'ai éteint mon sel. Puis j'ai rebroussé trottine et je me suis posée à côté d'elle sur l'asphalte humide, dans sa brume de bière cheap et son chaos de verbe. Il a plu beaucoup hier. Elle n'allait pas bien du tout. En m'arrêtant, j'ai rien changé dans la vie de cette fille. Elle ne voulait pas de mon aide éphémère ni de mes questions qui se voulaient sensibles mais qui lui semblaient paraître intrusives. Je n'étais pas significative. Elle est restée assise. Elle a sûrement beaucoup pleuré encore après mon départ, et ma pièce n'a pas fait sa soirée. Pendant 11 minutes, nous nous sommes rappelés que nous étions humaines et que sa peine était entendue. Je vous dis pas ça pour culpabiliser l'inaction, ni pour offrir de la visibilité à mon empathie. Mon empathie s'en fout d'avoir un public. S'arrêter n'a rien d'héroïque. Je vous partage ce fragment de vie montréalais, banal, parce que je nous sais souvent devant la peine ou la violence, au fond du cœur, trop volontaire et dans nos gestes trop immobiles. Nos interventions ont le droit d'être humbles, d'être discrètes ou maladroites, mais elles doivent, selon moi, être. Des larmes aussi intenses ne devraient pas être vécues dans l'indifférence générale, peu importe la source. J'avoue aussi que je sème ce que j'aimerais récolter. Si un jour je me retrouve par terre, grise et mouillée, brisée et vulnérable, à m'essuyer le désespoir près de vos chaussures à 200 piastres, mais j'espère un peu, juste un tout petit peu, qu'une personne va s'arrêter pour rien dire. Humblement. En acceptant qu'elle va pas changer le cours de mon récit, mais simplement pour m'offrir sa compassion. Peu importe les mauvais choix, les maladresses, les hasards louches, j'espère que je croiserai alors la personne qui éteindra son cellulaire en s'asseyant dans un souvenir de pluie pour me rappeler, sans jugement ni conseil, que même pas chic et un peu crasse, à pleurer parmi les hommes, j'existe encore.
Texte et narration, Annick Daigneault.
C'est ce qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez 2 minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marc-Claude Journeau, Aurélie Suberchico, Jean-Baptiste Gardarin, Solène Marchand, Guillaume Lambe, Annie Schneider, Annick Daigneault et Gargouille Laramé. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.